Bonjour et bienvenue dans Les Grands S'amusent. Aujourd'hui, je reçois Abdel Hakim Oudbib. Bonjour.
Bonjour.
Je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui. Vous êtes né en 1963 à Khénifra, dans les montagnes du Moyen Atlas marocain, d'une mère et d'un père berbère. Khénifra, surnommée la ville rouge par la couleur de sa terre et de ses habitations. Puis vous avez passé votre enfance à Casablanca, maison blanche, bercée par les vagues de l'Atlantique, par les parties de foot sur la plage, par une éducation bienveillante et enveloppante, dans un esprit de dialogue et de sage autorité. C'était l'époque d'Hassan II. Une tranche de vie entourée de 8 frères et sœurs, de parents attentifs, d'une grand-mère rassurante, de cousins, de cousines, un tourbillon d'amour, d'insouciance, de générosité et de sagesse. Le royaume chérifien nous fait rêver avec son océan Atlantique, sa mer Méditerranée, ses montagnes de l'Atlas, désert du Sahara, ses villages traditionnels, ses médinas parmi les plus belles du monde arabe, sans oublier sa merveilleuse hospitalité, son raffinement, sa cuisine généreuse, épicée et colorée, là où les diverses religions vivent côte à côte dans le respect les unes des autres. À 20 ans, vous faites votre baluchon, vous roulez jusqu'au port de Tingis ou Tanger et embarquez pour l'Espagne. Vous êtes berbère, marocain et français, trois cultures fortes. On vous sent bien ancré, déterminé et bon vivant aussi. Vous êtes multiculturel. J'ai eu envie de savoir comment on décide de quitter sa famille et sa terre patrie pour aller explorer d'autres contrées. Faut-il être bien ancré justement ? Comment concilie-t-on ces trois cultures ? Comment on s'adapte et on se construit ailleurs ? Devient-on caméléon ? Bonjour, donc salam alaikum Abdel Hakim, je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui. Nous allons donc parler multiculturalisme ensemble pendant une heure. Alors, je voulais savoir, qu'avez-vous reçu en héritage culturel et intellectuel ? En gros, que vous ont transmis vos parents, grands-parents et toutes vos nombreuses familles ?
Bonjour Madame Bouchard, merci de m'avoir invité ici. Qu'ai-je reçu en héritage ? Je pense que la composante fondamentale de l'éducation que j'ai reçue, c'est le respect des autres. On vit en société et la première chose à faire, c'est de respecter ceux qui sont autour de soi. Nous vivons dans une société en interaction éternelle avec les autres membres de la société. Donc forcément, en premier lieu, c'est le respect. La deuxième composante, c'est j'ai une chance inouïe d'être d'origine berbère, d'être né dans les montagnes de l'Atlas. Et j'ai toujours vécu à Casablanca, donc ville arabe. Et c'est quelque chose qui m'a apporté beaucoup d'être né dans deux cultures. Alors, pour vos auditeurs, peut-être qu'ils ne font pas la nuance entre la culture berbère et la culture arabe. Il y a des nuances, ils sont de la même religion, mais voilà. Donc, c'est respecter l'autre et apprendre à le vivre ensemble et ce multiculturalisme qui a commencé dès ma naissance.
Alors, la culture, c'est une manière de penser, de sentir et de réagir d'un groupe humain. C'est son identité. Le cœur de la culture, justement, est constitué d'idées traditionnelles, de valeurs. On définit beaucoup les gens par leur culture nationale, souvent d'ailleurs en stéréotypant un petit peu les choses. On a tendance à grossir les traits. Alors, pour le Maroc, on parle d'hospitalité, de convivialité des Marocains. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette culture, sur les traditions marocaines ? Et on parlera ensuite des traditions berbères qui sont, comme vous dites, différentes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus en dehors des clichés que nous avons ?
Alors, comme tous les pays où la température est très agréable, les gens vivent plus souvent dehors, tout simplement parce que ben, n'importe quel être humain, quand la température est agréable dehors, c'est une invitation à aller flâner dehors. Et forcément, si tout le monde est dehors, ben, il y a forcément des liens sociaux qui se créent, il y a des choses comme ça. Donc, c'est un pays où je vais passer par les premiers clichés, c'est. Le soleil, il est là tout le temps, donc c'est très agréable à vivre. La lumière du jour, c'est une composante fondamentale du psychique de l'être humain. Donc cette lumière, elle invite à vivre, à aller dehors, rencontrer beaucoup de monde, ainsi de suite. Et puis, il y a aussi le Marocain, il a un contact très facile. Donc forcément, quand on est dehors, ben on peut discuter avec des gens, mais de très facilement, de beaucoup de choses, sans forcément se connaître. Donc c'est quelque chose, c'est une composante un peu des pays méditerranéens, où on peut être sur une terrasse de café, dans un cinéma, dans un théâtre, et nouer la discussion avec le voisin de table d'à côté, parler de tout et de rien, mais on n'est pas obligé de bien connaître la personne pour passer un bon moment avec eux. Donc j'étais bercé par le beau temps, le relationnel facile, et puis quand on est dehors, bah forcément vu que les contacts sont faciles, c'est festif, c'est agréable, c'est tout. Alors la composante du beau temps, on s'en rend pas compte tout de suite parce que quand on est quelque part, bah forcément c'est la météo du lieu de naissance qui est la référence. À l'époque, il n'y avait pas encore Internet, il n'y avait pas tout ça. Donc, on savait que la neige existait, que le froid existait dans les pôles et tout ce qui s'ensuit. Mais tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne se rend pas compte réellement de ce que c'est. C'est quand je suis arrivé en Europe où là, j'ai compris qu'il y a une alternance du chaud et du froid et que le soleil qui est éternel, c'est une bénédiction
Il y
quand
avait une
même.
petite différence. Donc, vous diriez que ce sont des. Vous avez eu une enfance bercée par la tolérance, c'est-à-dire que quand vous dites que vous discutiez avec des personnes à droite, à gauche, des personnes que vous ne connaissiez pas. Est-ce que, par exemple, au niveau des religions, il y avait une tolérance, il y avait une grande tolérance, tout simplement, hein,
Alors,
des personnes entre elles?
j'ai eu la chance, je dis bien, j'ai eu la chance de grandir dans un quartier qui était peuplé par des Marocains musulmans, des Marocains juifs et des expatriés européens. La majorité, c'était des Français, donc des chrétiens. Alors, les Marocains juifs et musulmans, ils se fêtaient les fêtes des uns et des autres. En clair, comment on fête une fête au Maroc, c'est que les gens vont les uns chez les autres pour passer un moment ensemble, pour se souhaiter bonne fête, ainsi de suite. Donc, depuis mon plus jeune âge, j'ai vu dans mon quartier que les Juifs venaient chez nous pour fêter avec nous les fêtes musulmanes et les musulmans faisaient la même chose avec les fêtes juives. Donc, il y a des choses, quand on ouvre les yeux, qu'on les trouve, on les prend pour une référence et c'est comme ça. Moi, je sais que on jouait énormément au foot, mais qu'on savait d'office que nos voisins juifs ne jouaient pas au foot le samedi pour des raisons religieuses. C'était quelque chose qui est comme ça ne se discutait pas. Le reste de la semaine, on faisait ce qu'on voulait, mais le samedi, on savait très bien qu'ils respectaient leur religion et le reste de la semaine, ça posait aucun problème qu'ils puissent pas jouer avec nous
Beaucoup
le
de
samedi.
beaucoup de respect. Il y a un passage dans le Coran qui dit, avec les gens du livre, tu discuteras de la manière la plus polie. Donc finalement, c'est un peu ça.
C'est le verset de l'araignée.
C'est le verset 2.
Ça s'appelle le verset de l'araignée.
D'accord. Donc c'est bien ça. On transmet, on vous transmet un certain respect, hein.
Ce qui est très important, c'est l'éducation qu'on reçoit. Si depuis tout petit, on vous dit que l'autre, il va pas faire exactement les mêmes choses que vous, mais que ce n'est pas une raison pour l'exclure ou pour en faire une source de différence et de différent, eh ben, c'est un acquis. C'est que voilà, je vis dans une société où nous n'avons pas tous les mêmes repères religieux, nous n'avons pas tous les mêmes fêtes, mais qu'on se respecte les uns les autres.
Mais ça c'est une éducation, c'est propre à votre famille ou c'est propre au Maroc, aux Marocains?
Alors, je vais quand même vous raconter une anecdote qui s'est passée dans mon quartier. C'était une éducation généralisée. Ça veut dire que les musulmans et les juifs vivaient comme ça. Les expatriés, c'était un peu particulier parce que vu que ce n'est pas des nationaux, ce n'est pas des Marocains au sens nationalité, ils vivaient parce qu'ils sont là pour un certain temps. Les deux autres populations, elles sont là, elles vont rester là. Il y avait un jour, il y avait un Marocain de confession juive qui était tombé amoureux d'une Marocaine de confession musulmane, donc du même quartier, ça veut dire autant dire qu'ils se connaissaient très bien, les familles se connaissent très, très bien. Eh bien, ça ne s'est pas bien passé, tout simplement parce que je pense que la tolérance, à certains moments, on est tolérant, mais on arrive à quelque chose qui est intolérable, et là, ça ne passe plus.
Ouais.
Donc, c'est vrai que des deux côtés, les amoureux, ils étaient très contents de vivre leur amour. Les deux familles, elles étaient plus réticentes. Et aux dernières nouvelles, ils vivent toujours en Australie. Donc, ils se sont dit, bon, puisqu'il y a beaucoup de turbulences sur notre relation amoureuse, on va aller vivre notre relation amoureuse sous d'autres cieux. Je tiens à dire que c'était un choix qui leur était personnel. Personne ne les a poussés dehors. Ils vivaient leur amour, on le savait bien, mais je sais que ce n'est pas quelque chose qui est passé naturellement. Donc, tout ça pour dire que ben, toutes les populations, elles arrivent à vivre avec des choses qui rentrent plus ou moins dans leur dictionnaire. Il y a un moment, il y a quelque chose qui arrive qui ne fait pas partie de ce dictionnaire. Et forcément, ça peut, là, à ce moment-là, les gens, les interprétations. Je ne pense pas que c'était vraiment des tensions, mais il y avait un malaise qui s'est installé dans les deux familles. Donc,
ouais, je comprends.
Moi, je trouve que c'est complètement idiot. Deux êtres humains qui s'aiment, on s'en fout de la religion de leurs parents.
Exactement.
L'important, c'est d'abord eux, ce qu'ils vivent.
Et les traditions berbères, alors quelles sont les différences entre les traditions berbères et les traditions arabes?
Alors, les Berbères, c'est une population qui est arrivée au nord de l'Afrique, donc la région actuelle qu'on appelle le Maghreb, il y a 4000 ans. Donc, c'est une population qui est arrivée beaucoup, beaucoup, beaucoup en avant que les Arabes arrivent. Les Arabes, ils sont arrivés vers l'an 700. Donc, ça veut dire que c'est une population qui était installée au nord de l'Afrique depuis pratiquement 3000 ans et des poussières, et les Arabes sont arrivés. Alors, historiquement, les Berbères étaient païens au sens tel qu'on le comprend aujourd'hui. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas une religion monothéiste. Ils n'avaient pas une religion monothéiste telle qu'on l'entend aujourd'hui parmi les trois. Après, ils sont devenus juifs. Après, ils sont devenus chrétiens et à la fin, ils sont devenus musulmans. Alors, pour citer un petit peu, aujourd'hui, il y a le Maroc est composé de plusieurs tribus. Alors, une tribu, c'est un territoire régional. Si on veut donner image à vos éditeurs, si on prend un département aujourd'hui, bah, sur une carte, il y a des délimitations qui délimitent un département d'un autre. Donc, c'est exactement la même notion qui existe pour les tribus. Chaque tribu, elle a un territoire qui lui est propre. Et elles vivent à côté de d'autres tribus. Donc, Saint-Augustin est un berbère qui est devenu chrétien. Et donc, aujourd'hui, on sait l'histoire que Saint-Augustin a eue. Donc, ça, c'est la période où les berbères étaient chrétiens. Mmh. Aujourd'hui, au Maroc, il y a des tribus qui portent des noms israélites. Ça nous donne encore avec le nom de savoir quelle était l'origine, quelle était la religion de la tribu, absolument.
Oui.
Et aujourd'hui, au Maroc, bah, tous les ans, il y a des pèlerinages que certains Israélites viennent passer au Maroc pour visiter les tombeaux de leurs ancêtres, pour continuer à fêter certaines religieuses qui sont propres à ces tribus berbères. Et donc, les berbères, c'est une population qui n'est pas d'un point de vue biologique une ethnie à part ou une race à part. C'est qu'on n'arrive pas avec les gènes à définir qui est berbère et qui n'est pas berbère. C'est essentiellement une culture.
D'accord.
Et donc, et voilà, c'est cette culture, ça a fait la succession de toutes les religions, les influences qu'il y a eu. Alors, la particularité, c'est qu'ils ont toujours vécu dans les montagnes et pas dans les plaines.
D'accord. Alors, on va juste faire une petite pause musicale et on reprend ensuite, on va reparler des tribus berbères parce que c'est très intéressant. À tout de suite. Donc, nous allons passer Barbara Pravi, le morceau Saute. Suite.
Je ne sais pas où je vais, ni vers quoi je vais, mais j'avance tout droit, toujours tout droit. Et je reprends mon souffle, mais je continue la course sans écouter ces voix qui veulent me retenir. Je n'arrêterai que devant l'océan, devant l'océan fini. 100 fois plus grand que moi, 100 fois plus grand que nous. Rien n'est plus réel que les reflets du sel argentés de perles qui brillent et ruissellent sur ma peau. Je sens, sens comme elle est belle, là-bas, la vie qui m'appelle et ouvre ses bras. Devant le vide et le ciel, dans mon dos s'ouvrent mes ailes et je compte jusqu'à 3. Oui, moi, quand je me mens, quand je ne suis plus sûre de comprendre mon propre cœur, je vais me chercher ailleurs. La chute n'est que meilleure quand on prend goût à l'inconnu. Oui, j'ai choisi le bleu du ciel ou de l'océan qui t'a erré à l'infini. Sans tant de solitude, sans plus de certitude, rien n'est plus réel. Faire danser mes ailes de plumes ou de perles qui brillent et ruissellent dans les ombres. Je sens, sens comme elle est belle, là-bas, la vie qui m'appelle et ouvre ses bras. Devant le vide et le ciel, dans mon dos s'ouvre mes ailes et je compte jusqu'à 3.
C'était Barbara Pravi, Saute, qui est une auteure-compositrice-interprète française connue pour son engagement en faveur des droits des femmes, et elle a été désignée révélation féminine de l'année lors de la cérémonie des Victoires de la musique 22. Voilà. Donc nous sommes sur Aligre FM 93.1 avec Abdelhakim Oudbib qui nous parle de ces trois cultures françaises, arabe, berbère. Donc on va continuer un petit peu sur la culture berbère et surtout la différence qu'il y a entre la culture berbère et la culture arabe.
La culture berbère est, c'est quelque chose de beaucoup plus oral qu'écrit. Alors, pour quelle raison, on ne sait pas trop. Mais il y a un alphabet berbère qui existe. Cet alphabet s'appelle le Tifinagh. Cet alphabet est beaucoup, beaucoup utilisé par les Touaregs encore aujourd'hui. Et c'est quelque chose qui existe depuis très, très, très longtemps. Il faut savoir qu'il existe aussi un calendrier berbère. Alors, le calendrier berbère, c'est 960 ans avant Jésus-Christ. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on prend l'année chrétienne, grégorienne, et on rajoute 960 pour tomber sur le calendrier berbère. Et ce calendrier berbère, il correspond à l'intronisation du premier berbère pharaon d'Égypte. Donc, autant dire que c'est une culture qui date depuis très longtemps,
ancienne,
absolument.
Ouais.
Donc, ils utilisent encore le calendrier égyptien. Le calendrier égyptien qui a été défini par les Égyptiens pour prévoir les crues du Nil, pour l'agriculture et tout ce qui s'en suit, encore aujourd'hui au Maroc, la nuit du 11 au 12 février, les Berbères fêtent le nouvel an berbère qui correspond exactement au calendrier égyptien. Et donc ce calendrier égyptien qui est par l'étruchement de beaucoup d'action politique est devenu le calendrier grégorien.
D'accord.
Donc, c'est une culture qui est essentiellement orale. Les écrits sont très rares. Et cette culture, elle se transmet du vivant des gens, à savoir que les aînés et les grands transmettent aux plus jeunes.
Et ça existe encore aujourd'hui ? Ça se perpétue encore aujourd'hui, cette culture orale, justement ?
Alors, non, parce qu'aujourd'hui, il y a une prise de connaissance et prise de conscience de cet héritage qui, si on ne le maintient pas, il se perdra forcément. Alors, c'est le monde associatif essentiellement qui œuvre dans la préservation de ces cultures berbères. Il y a eu un petit relâchement qui était observé à partir des années 70, des années 80. Aujourd'hui, la prise de conscience est là et qu'il y a beaucoup, beaucoup de tissus associatifs qui œuvrent pour préserver ces cultures-là. Et surtout aujourd'hui, c'est des cultures qui transmettent essentiellement par des chansons. Donc aujourd'hui, il y a un recueil par des associations de différentes. Il faut savoir qu'au Maroc, il y a trois composantes berbères. En clair, c'est un ensemble de populations qui se sont établies dans des montagnes dans le Maroc. Il y a les montagnes du Rif, il y a le Moyen Atlas et le Haut Atlas. Et ces trois régions correspondent à trois cultures berbères qui sont légèrement différentes, avec des dialectes ou des langues qui sont légèrement différentes. Donc là, depuis quelques années, le Maroc a officialisé le berbère comme langue officielle au Maroc. Il y a un travail qui est fait pour harmoniser ces trois langues.
Alors justement, à propos de langue, est-ce qu'il y a vraiment une langue nationale au Maroc ?
Officiellement, c'est la langue arabe. Mmh. Et depuis une dizaine d'années, le berbère a été officialisé comme langue officielle. Donc pour les gens qui visitent le Maroc, ils vont être étonnés de voir un peu sur les panneaux d'autoroute, sur les établissements publics, sur les publicités dans les rues, qu'il y a un alphabet latin, parce que le français existe beaucoup au Maroc. Donc on va avoir des publicités qui sont en langue française, qui sont en langue arabe. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de gens arrivent à reconnaître l'alphabet arabe. Et puis il y a maintenant le troisième alphabet qui apparaît un peu dans les rues au Maroc, c'est le tifinagh, qui est l'alphabet berbère.
Ah oui, d'accord. Okay. Donc on va parler aussi un petit peu de la culture arabe. Aujourd'hui, ça arrive que nous, les Français, ayons une mauvaise interprétation, une mauvaise image de la culture arabe. Hein. À quoi c'est dû ?
Moi, je pense que on a toujours peur de ce qu'on ne connaît pas. À partir du moment où on ne connaît pas quelque chose, ben on va la voir à travers notre propre culture, nos propres références et nos propres valeurs. Donc forcément, c'est des cultures qu'on connaît mal et forcément, ben on en a peur. Et la peur, ça se traduit par des phrases qui peuvent être interprétées comme du déni, comme insultantes, ainsi de suite. Mais la majorité du temps, c'est essentiellement un manque de connaissances. Et ce manque de connaissances, je pense qu'il est dû essentiellement au passé colonialiste de la France. Ça s'est passé au début du XXe siècle, il y a prescription. Il faut qu'on arrête de parler de ça, il faut qu'on arrête de dire la France a colonisé là ou là, on s'en fout.
Mm-hmm. On avance.
On est au début du XXIe siècle, il faut qu'on regarde devant et pas derrière. Il y a eu cette histoire, ça serait complètement idiot d'essayer de la réécrire. Il faut s'avouer les choses. Il y a des choses qui se sont bien passées, des choses qui sont mal passées, mais ça fait partie de l'histoire. Avançons. C'est donc ce deuil du passé colonialiste français, c'est plus ou moins reconnaître les erreurs que les uns et les autres ont fait. Ça permet d'apaiser tout le monde. Alors moi, je suis d'origine marocaine. Mmh. Le protectorat français qui a duré 40 ans, de 1912 à 1956, il n'a pas été très douloureux parce qu'il n'y a pas eu de guerre réellement. Mais je sais que dans d'autres pays, c'est quelque chose qui a laissé beaucoup de blessures et que je pense qu'il est grand temps de s'asseoir autour d'une table, de penser ses blessures et d'arrêter de se jeter la faute les uns aux autres. Ça ne fait pas avancer le débat. Alors, on est en pleine campagne électorale. Je pense qu'il y en a certains qui jettent de l'huile sur le feu par rapport à ça. C'est un peu dommage d'être encore...
On fait beaucoup d'amalgames, c'est vrai qu'avec avec la religion aussi, hein, avec...
Je maintiens ce que j'ai dit, c'est quand on ne connaît pas, on en a peur, et forcément si on en a peur, eh ben, on va commencer à parler à travers nos valeurs et nos peurs, et forcément la vision qu'on a et l'interprétation qu'on a fait, elle est transformée, elle est interprétée, et ça aboutit à des malentendus.
Alors justement, quand vous dites quand on ne connaît pas, mais alors comment on fait pour s'informer pour justement découvrir un petit peu plus cette culture arabe, sans en avoir peur, sans mettre tout le monde dans le même panier, sans faire de confusion?
Ben, tout simplement, moi je pense que pour connaître quelque chose, il faut s'en approcher. C'est aussi simple que ça. Donc aujourd'hui, moi je pense que cette culture arabe qui existe, qui est méconnue dans le monde occidental, ben il y a heureusement un pourcentage qui n'est pas négligeable d'occidentaux qui se sont ouverts à cette culture, qui ont trouvé des choses bien et des moins bien. Comme on fait dans toutes les cultures, bah dans la culture, on va prendre ce qui nous intéresse et on laisse ce qui ne nous intéresse pas. Il y en a qui sont fanats de cinéma, ils ne vont jamais au théâtre. Il y en a d'autres, c'est que le théâtre et jamais le cinéma, ainsi de suite. Donc forcément, on prend le temps de comprendre et puis on regarde ce qu'il y a. Et puis, il y a aussi le fait que il y a une petite barrière de la langue qui fait que, eh ben, on s'en approche moins facilement. Quand on est dans des cultures qui sont proches, je prends par exemple en Europe les latins et les anglo-saxons, c'est des cultures qui sont proches, il y a beaucoup de différences, mais la base c'est quand même le latin, et forcément ben, on pense que c'est plus abordable. Donc il y a aussi cette barrière de la langue qui fait que les choses ne se passent pas de façon fluide.
Oui, je comprends. Alors j'ai un jeune homme qui s'appelle Nance, qui a une question pour vous. Alors malheureusement, il ne peut pas être là aujourd'hui, mais je vais vous lire sa question. Quelle fut la plus grande difficulté que vous ayez rencontrée lors de votre intégration dans la culture occidentale?
Ah, il est bien ce jeune homme, j'aimerais bien le rencontrer. En fait, moi je pense que quand on fait le pas de... passer d'un pays avec une culture et partir dans un autre pays avec une autre culture, c'est à moi qui me suis déplacé de faire l'effort de m'adapter aux autres. C'est la logique, c'est naturel et c'est comme ça que ça marche. Donc, si je dois juste sortir un point qui est négatif, c'est que je suis arrivé en France pour faire mes études dans les années 80. Moi, je ne me suis pas posé de question à savoir est-ce que j'ai le droit d'être ici ou est-ce que je n'ai pas le droit d'être ici, qui m'aime, qui ne m'aime pas. Je suis venu avec un but de faire 4 ans d'études et je ne me suis posé aucune question. Et par contre, le point le plus compliqué, c'était le logement. Ben, j'ai découvert en arrivant en France que on allait me regarder de travers parce que j'avais un nom qui n'était pas bien français. Et c'est vrai que pour les logements, ben, quand je demandais un logement, ben, les propriétaires étaient très réticents et c'était très présent.
Ok, on va faire une petite coupure musicale. Là, c'est votre choix. Alors, c'est Inas, Douzi et Stassi. On en parle juste après. À tout de suite, monsieur Oudib.
Inas, ma'iri khadasi khizma. Hey. charisme.
Amana 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 amana
C'était...
Alors, c'était une interprétation d'une chanson d'un très célèbre chanteur berbère qui s'appelle Rouicha. Et il a fait cette chanson qui est indémodable parce qu'elle a un rythme qui n'est pas collé à une mode d'un instant T. Elle a été reprise phonétiquement par beaucoup, beaucoup d'interprètes. C'est une chanson d'amour. Alors, on va pas détailler les paroles, mais c'est... Le chanteur qui déclarait sa flamme à sa bien-aimée.
Eh bien, c'est très joli. Alors, j'allais dire, il n'existe finalement nulle part dans le monde de culture pure. Toutes les cultures sont métissées à des degrés divers, bien sûr. Et la culture contribue à relier les personnes, à trouver une place dans le monde. Voilà, donc on est vraiment dans le cœur de ce sujet aujourd'hui avec vous. Adèle Hakim Oudbib sur Aligre FM. 93.1. Moi, ce que je voulais savoir, c'est donc vous êtes arrivé en France. Déjà, quelle a été la vraie motivation pour quitter le Maroc, pour arriver en France et faire votre vie ici?
Alors, c'est un concours de circonstances. J'ai eu une révélation un jour. J'étais dans une foire d'exposition internationale à Casablanca, au Maroc. Et au détour d'un couloir dans cette exposition, je me suis retrouvé devant un ordinateur. Nous sommes en 1981. Autant dire que c'était un choc parce que l'information ne se diffusait pas aussi vite. Et quand j'ai vu ce truc-là, j'ai passé pratiquement une heure et demie, deux heures à discuter avec la société qui commercialisait ça à l'époque. Et ça m'a fasciné, ça m'a happé. Donc, j'ai eu mon bac, mon idée était de faire de l'informatique, d'étudier de l'informatique. À l'époque, ça n'existait pas encore au Maroc. Donc, naturellement, je me suis orienté à l'étranger. Et l'étranger, j'ai choisi tout naturellement la France parce que ma scolarité au Maroc était... composé par la moitié du temps en arabe et la moitié du temps en français. Autant dire que je suis bilingue, trilingue, berbéro, arabo-francophone. Et donc, naturellement, mon choix s'est porté sur la France parce que je n'avais pas de barrière de langue et que pouvais entamer mes études directement.
C'était plus simple.
Donc, ce n'était pas un choix, ce n'était pas une fuite. C'était juste que j'avais envie de faire ces études-là et je suis allé à l'endroit où je pouvais faire ces études.
Oui. Alors, vous avez été ensuite mariée à une Française chrétienne avec qui vous avez eu un fils. Alors, l'histoire de l'éducation, comment on négocie l'éducation, vous justement qui venez de deux autres cultures, d'une autre religion, avec une femme française chrétienne? Est-ce qu'il y a des points de désaccord? Est-ce que c'est difficile à composer?
Alors, je vais commencer d'abord par dire que mon fils est la plus belle chose que j'ai faite dans ma vie. Donc ça, c'est dit. En fait, maintenant, on est séparés avec sa mère. La question, à partir du moment où vous avez utilisé le terme négocier, c'est que vous n'avez pas la bonne approche. La bonne approche, c'est qu'aujourd'hui, quand on vit ensemble, que ce soit en amour, que ce soit professionnellement ou socialement, c'est un éternel compromis. Donc, nous, quand on a élevé cet enfant, la question ne se posait pas sur je vais être dominant dans ma culture ou la tienne. Non, il faut lui donner les bonnes valeurs pour qu'il se fasse sa propre opinion, pour qu'il fasse sa propre vie, qu'il se construise avec ce qu'il a autour de lui. Et je vais reprendre une de ces phrases que je trouve merveilleuse. Un jour, on était au Maroc et une de mes tantes, c'est une personne formidable, elle lui a dit, est-ce que toi, tu es moitié marocain, moitié français? Est-ce que ça te plaît? Il lui a dit, oui, je suis moitié marocain, moitié français, mais je vis en France, donc la moitié française est plus grande que la moitié marocaine. J'ai adoré cette description. Je pense que c'est faux qu'en tant que parent, qu'on essaye de donner à nos enfants quelque chose qu'ils ne veulent pas. Donnons-leur les moyens de se construire, de faire ce qu'ils veulent de la vie comme ils veulent. C'est clair que oui, il a des gènes marocains et des gènes français, mais c'est une personne à part entière. Il a la liberté de choisir qui il veut être, comment il veut être. Donc, et ça, c'est ce qui a conduit notre éducation de cet enfant. Je pense qu'aujourd'hui, il est très heureux et j'en suis ravi pour lui qu'il soit très heureux. Je pense que en tant que parent, on a fait notre job, à savoir lui donner ce qu'il faut pour qu'il puisse s'épanouir et vivre en adulte heureux.
Mais c'est d'une grande sagesse. Est-ce que vous lui avez donné un prénom français ou un prénom plutôt arabe?
Alors, la question sur les prénoms est un faux débat. Alors, Nance est d'origine, on va dire, scandinave. Ouais. C'est un nom viking qui signifie homme sans bouclier ou homme sans peur en fonction des traditions qu'on donne. En fait, la recherche, c'était juste, on voulait un nom court. Et les noms courts sur ce qui existait, celui-là s'est détaché du lot. Mais il n'y avait eu aucune connotation de dire il faut que ça soit un prénom arabe, il faut que ça soit un prénom français, ni quoi que ce soit.
D'accord, ok. Alors, on va faire une petite transition sur on parle de votre ex-femme, de la place de la femme au Maroc, qui est un petit peu différente de celle de la place de la femme en France. Donc, se pose la question du modèle de société. Effectivement, aujourd'hui, quelle est la place de la femme au Maroc?
Alors, on va planter le décor. au Maroc, c'est une société patriarcale. Il ne faut pas se voiler la face, il ne faut pas se cacher la face. C'est une société patriarcale, donc l'homme est très présent. Ce qui se passe depuis à peu près le milieu du XXe siècle, c'est que ce poids paternaliste, il commence à se diluer un peu dans le temps, tout simplement parce que la femme est la moitié de la société. Donc pourquoi on doit la réprimer, on doit la pousser un petit peu à l'extérieur? Aujourd'hui, je sais qu'au Maroc, il n'y a pas de barrière autre que culturelle ou familiale. En clair, dans le droit, elle est l'équivalent de l'homme. Alors, je vais ouvrir une petite parenthèse, je vais la fermer. L'héritage est géré par la loi religieuse et ça crée des frictions entre les garçons et les filles là-dessus. Mais je pense que c'est tellement compliqué qu'on ne va pas l'aborder maintenant. Mais oui, il y a des femmes pilotes de chasse au Maroc. Je pense aussi que le Maroc a acheté un Dreamliner, c'est le plus gros Boeing qui existe. Et pour faire un clin d'œil aux femmes, c'est deux femmes qui conduisent cet avion, qui pilotent cet avion, qui traverse l'Atlantique. Et c'est un clin d'œil, c'est fait exprès pour dire, écoutez, nous, on a des femmes, il y en a qui sont compétentes et on ne leur a pas bouché la porte. Donc oui, il y a des clins d'œil, oui, il y a encore du travail à faire, c'est pas facile tous les jours, mais les mentalités changent. Alors, le ton de l'humour, quand je vois un petit peu les Lina et puis les micro-trottoirs des années 60 en France, c'était pas très glorieux non plus. Donc, ok, on va dire qu'il y a un décalage, c'est content, et puis on va laisser les choses s'installer doucement.
C'est une histoire de décalage.
Absolument. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on sait que les infos nous rapportent ce qui se passe dans un pays lointain où c'est malheureux, c'est horrible ce qui se passe là-bas. Au Maroc, c'est pas à ce degré-là. C'est juste un poids social qui est là et il est en train de se diluer tout doucement. Aujourd'hui, c'est dans les écoles, dans les métiers, on ferme pas la porte à une femme ou à un garçon.
Donc,
Voilà.
vous diriez que la femme s'autonomise de plus en plus.
Absolument.
C'est
Il y a du
vrai que.
travail, hein.
Oui,
Je ne dis pas
ouais.
que tout il est beau,
Ah
tout il est magnifique. Non, non, non. Il y a encore du travail, mais le plus important, c'est quand on crée la condition pour que ça se passe bien, ben les choses se déroulent correctement.
Et c'est vrai que la presse, voilà, fait facilement des raccourcis. Quand on parle de tout cela, hein, on peut. C'est à nous finalement d'aller un petit peu farfouiller, chercher pour essayer de voir quelles sont les vérités.
Alors, c'est quand même quelque chose, c'est un point très important là, ce que vous abordez là. Moi, j'ai eu la chance de passer 20 ans au Maroc, 20 ans en Suisse et 20 ans en France. Et même si la Suisse et la France sont deux pays limitrophes, et bien, culturellement, il y a une grande différence. Aujourd'hui, je peux dire que l'égalité homme-femme en Suisse, c'est une réalité. C'est là, c'est quelque chose qui accourt tous les jours. Je prends un exemple bête qui va faire sourire beaucoup de monde parce que c'est pas ça qui change une société. Mais en Suisse, une femme qui va annoncer à son employeur qu'elle veut arrêter de travailler le mercredi pour élever ses enfants, on va l'applaudir. Alors qu'en France, il y a encore, ça commence à s'installer, mais encore des réticences pour ça. Donc, ce que les journalistes racontent, ben, malheureusement, je m'adresse à une journaliste, mais dans la population des journalistes, il y en a beaucoup qui cherchent le sensationnel, la chose qui va faire vendre. Et malheureusement, on va tendre un petit peu vers ce qui est négatif parce que ça fait parler plus les gens. Oui, bien sûr qu'ils n'inventent pas, c'est des choses qui se passent, qui sont malheureuses, mais on ne changera pas l'être humain en dictant une loi, les esprits des êtres humains ne changent pas.
Ok. Bon, on va refaire une petite pause musicale avec Rachitar, Abdel et la comtesse. À tout de suite. Chita, Abdel et la comtesse, on pourrait laisser la musique pendant des heures et danser dessus. Hein. Nous sommes sur Aligre FM 93.1 avec Abdel Hakim Oudbib qui nous parle de ses trois cultures, française, berbère et arabe. Alors, j'aurais bien aimé qu'on parle un petit peu du Maroc des années 60. Voilà, le Maroc que vous avez connu, Casablanca dans les années 60, ça ressemblait à quoi ?
Alors,
sous Hassan II.
Alors, le Maroc sous Hassan II, je crois qu'il y a une expression qui est largement utilisée. On appelle ça les années de plomb. Alors, je pense que ce n'est pas une émission politique. On ne va pas rentrer dans le détail.
On est là pour s'amuser et pour transmettre aux jeunes.
Absolument. Et il fait très bon vivre dans ce pays qu'on appelle le Maroc. J'en garde un très, très bon souvenir. J'avais la chance d'avoir une maison qui était en bord de plage. Autant vous dire que j'ai eu droit à un bac à sable immense toute ma jeunesse et toute mon enfance. Et j'en garde de très bons
souvenirs. Quelle chance.
Alors, maintenant, Hassan II. Alors, je vais juste essayer de résumer une situation. Hassan II, un jour, avait dit dans une interview « J'avais la mission suprême de préserver la dynastie alaouite au Maroc. » En clair, il disait que si je n'ai pas fait ce que j'ai fait aujourd'hui, ben, le Maroc aurait implosé ou explosé, ça ne serait plus un pays uni et sa dynastie aurait disparu. Donc forcément, il a dirigé le pays d'une main de fer, comme on dit, avec un gant de velours rousse, ou comme on peut le dire. Donc oui, effectivement, c'est des années de plomb parce que sa priorité absolue, c'était de gérer l'unité du pays et préserver la dynastie alaouite.
Donc c'était...
Et ça s'est fait avec beaucoup, beaucoup de dommages collatéraux.
Beaucoup de certaines violences, on va dire.
C'est le moins qu'on puisse dire. Il y a eu énormément de violences. Officiellement, on connaît deux tentatives de putsch. On sait que la liberté de la presse ou la pratique de la politique, ce n'était pas quelque chose de très toléré. Et donc, et forcément, il y a eu de la violence pendant ces périodes-là. Mais il a eu l'intelligence de laisser les gens qui ne faisaient pas de la politique vivre. Donc, on peut en débattre. Oui. Est-ce qu'on doit mourir en clamant ses idées et sa liberté, ou est-ce qu'on doit laisser filer parce qu'il fait bon vivre? Je pense que chacun se fera sa propre opinion de ça. J'étais jeune à l'époque où il était encore là. J'ai quitté le Maroc dans les années 80. J'avais 20 ans. J'avais envie de découvrir le monde. Donc, je n'ai pas eu à supporter personnellement les affres de la pratique politique au Maroc.
Vous êtes passé d'un pays d'une dictature à une démocratie.
Alors, j'ai une anecdote pour ça qui est extraordinaire. À l'époque, je crois que ça existe encore aujourd'hui, il y avait la carte qu'on appelle Interrail. C'est magnifique. C'est quelque chose d'exceptionnel.
Oui, on achetait son billet et on avait le droit de voyager en train dans toute l'Europe, ou c'est ça ?
Non, c'est plus simple que ça. En fait, c'est une carte qui inclut une grande partie de l'Europe et le Maroc.
Ah, et le Maroc.
Et
ça,
le Maroc. Et quand on achète cette carte, dans son propre pays, on voyage à 50% du billet. Dans les autres pays, on voyage gratuitement. Alors, autant vous dire que pour un Marocain, c'est tout bénef. Et donc, et cette carte, elle m'a permis de sillonner toute l'Europe. C'est assez extraordinaire. Et donc, et la première fois que je suis venu en Europe, en 61, je me rappelle d'une dame qui circulait dans la rue, donc c'était 81, c'était Mitterrand, et qui insultait Mitterrand. Alors, autant...
Vous avez eu de la chance de tomber sur cette scène directement.
Absolument. Eh bien, c'était un choc culturel. Mais quoi ? Cette dame est en train d'insulter le président de la République en pleine rue et personne ne fait attention à elle. Les gens la regardent avec le sourire et tout. C'est quelque chose qui était impensable au Maroc à l'époque d'Hassan II. Donc oui, effectivement, quand on part d'un pays où politiquement la liberté n'était pas là et qu'on arrive dans des pays démocratiques, oui, c'est vrai que ça fait un choc culturel. Mais le deuxième effet qui se coule, comme on dirait, c'était quand je suis arrivé en Europe, on s'adressait à moi en regardant d'abord la couleur de ma peau. On me posait la question, mais t'es pas français. Mais pourquoi ils me posent la question ? Je veux dire, si tu veux discuter avec moi, parle avec moi, ne me demande pas de Canadien. Ça change quoi de demander la nationalité avant de... Et après, bon, bah, quand on a commencé un petit peu à comprendre comment ça se passe, on a compris pourquoi les gens ils vont commencer d'abord pour s'interroger sur tes origines avant de savoir qui tu es. Et tes origines, ils peuvent faire fermer certaines portes.
Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui vous a un petit peu, qui vous a un petit peu étonné quand vous êtes arrivé de ces questions-là.
On passe l'effet de choc et l'effet de surprise. Moi, je ne me posais pas les questions dans ce sens-là. Je suis ici. Légalement, j'ai le droit d'être ici. Donc, je ne me pose pas de questions. Est-ce qu'on m'aime ou est-ce qu'on ne m'aime pas? Je suis là. Il y a des lois, il faut les respecter. Et il faut vivre sa vie. Et pour vivre sa vie, il y a des gens qui vous aiment, des gens qui ne vous aiment pas. Il y en a qui ne vont pas vous aimer parce que vous êtes grand. Il y en a qui ne vont pas vous aimer parce que vous êtes homosexuel. Il y en a qui ne vont pas vous aimer. Donc, les gens, ils vont trouver plein de raisons pour pas vous aimer. Donc, il faut pas s'arrêter là. Ouais. Qui m'aime ou qui m'aime pas, ceux qui m'aiment pas, c'est pas grave. Mmh. Ils sont là et je ferai sans eux.
Ouais. Alors, c'est rigolo. J'ai rencontré une femme de couleur à qui on posait cette question. De quelle origine vous êtes? Elle disait, mes origines, c'est un papa et une maman qui s'aimaient beaucoup. J'ai trouvé ça très joli aussi comme réponse.
Mais moi, aujourd'hui, moi, je pense que, se poser la question sur quelle est l'origine de la personne, bah, tu te mets des barrières pour rien.
Oui, exactement. Ouais. C'est vrai que c'est un défaut qu'on a, nous, les Français.
Non, je ne pense pas que ça soit forcément
un défaut.
Moi, je pense que quelque part, on a besoin de savoir à qui on s'adresse d'une façon ou d'une autre.
On peut dire que c'est peut-être un petit peu maladroit, simplement.
Il y a l'ambiance politique qui fait que cette question, elle peut paraître péjorative. Parfois, les gens ils la posent normalement. Ça choque personne quand un Français de souche s'adresse à un autre Français de souche et lui dit « Est-ce que t'es ch'ti? Est-ce que t'es marseillais ?» Est-ce que... Ça
vrai.
Choque personne. Ça peut prêter le sourire. Tiens, je vois mal un Parisien demander à un Marseillais d'où est-ce qu'il est. Surtout avec l'accent, il voit tout de suite d'où il vient.
Ça
choque personne. Mais à partir du moment où il y a une frontière, on commence un petit peu à l'interpréter comme péjorative.
C'est vrai. Aujourd'hui, vous préférez le Maroc ou la France?
Alors là, c'est une très bonne question. Je suis de nationalité française et marocaine. Et j'aime les deux. Et moi, je vous retourne la question.
Les deux en général.
Oui, parce que je vais vous retourner la question. Est-ce que vous aimez mieux votre papa ou votre maman? C'est exactement la même chose.
C'est une jolie réponse.
Il y a de la place pour aimer les deux. Il y a de la place pour être fier des deux. Et il faut être honoré d'appartenir aux deux.
C'est une très jolie réponse. Si vous regardez, quand vous regardez un match de foot, vous êtes pour qui? Pour le Maroc ou pour la France?
Alors, j'ai eu une chance inouïe lors du mondial de foot, pas celui qui passait, mais d'avant, parce qu'il y avait le Maroc et la France qui jouaient. Et c'était fabuleux de pouvoir se balader, de supporter deux équipes, d'avoir deux drapeaux et de jouer avec un petit peu d'humour aussi. Ben, quand il y a l'une qui gagne, ben, je suis très fier. Quand elle perd, je dis « Ouais, mais je suis pour l'autre équipe ». Non, là, c'est dans le domaine du sport. Si on parle du foot, bah oui, le niveau n'est pas le même, mais forcément, c'est la France qui va gagner. Donc, pour des matchs comme ça, parce qu'il y a déjà eu des matchs amicaux entre la France et le Maroc, et je dirais toujours que le meilleur gagne.
Ah ben, bravo.
Et comme tout le monde, ben, on a un petit penchant pour le plus faible. On espère qu'il va réaliser des prouesses, mais malheureusement, dans le sport, ça se passe rarement.
Ça se passe rarement. Si vous aviez un message pour les jeunes, quel serait-il?
Arrêtez de vivre dans le regard des autres. Le monde est magnifique. Allez le découvrir. Ne vous censurez pas avec des questions existentielles. Prenez ce que le monde vous donne. Allez-y, franco. Tentez tout ce que vous avez envie. Bon, je vais faire le paternaliste, dans les limites de la loi, bien sûr. Mais c'est quand on est jeune, c'est le moment où on peut croquer la vie à pleines dents. Il faut y aller. Il faut tester tout ce qu'on veut. Il faut refuser qu'on vous oblige à faire ce que vous ne voulez pas. Vous êtes seul décideur de ce que vous avez envie de le faire. Essayez, vous allez voir que la vie, elle devient plus belle.
Je vous dis merci pour les jeunes. C'est Simone de Beauvoir aussi qui disait « Exister, c'est se jeter dans le monde ». On peut dire que finalement, vous avez pas mal de qualités. Alors, les qualités pour justement se construire dans une autre culture, c'est l'appétit de l'autre, c'est être très curieux, être ouvert, être humble, être sage aussi. On a l'impression que vous êtes une personne avec beaucoup de sagesse.
Alors, heureusement que vous parlez des qualités, parce qu'on va aller vite. Parce que si vous abordez les défauts, il nous faudrait 3 émissions, on n'en fera pas le tour.
On est dans le positif. Bon,
oui, non, mais moi, je pense que je vais citer un adage marocain qui dit « Écoutez l'autre, c'est s'enrichir ». C'est à chaque fois qu'on a des nouveaux contacts, il y a forcément quelque chose à y gagner, à écouter les autres. Mais quand je dis « écouter », c'est pas juste s'asseoir à côté et entendre. Je parle bien d'écouter. Ça veut dire que laissez les mots qui arrivent dans vos oreilles rentrer au fond de vous-même et prenez que ce qui vous intéresse. Mais écouter l'autre, c'est toujours s'enrichir. Donc, allez vers les autres pour vous enrichir. Vous ne pouvez en sortir que gagnant.
Je vous remercie infiniment, Abdelhakim Oudbi, pour cette très jolie transmission. Vive les différences, la diversité, les cultures plurielles. Espérons que le multiculturalisme soit le vœu des démocraties, car nous nous enrichissons de tous ces espaces pluriels. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Abdelhakim, avant qu'on se quitte ?
Je profite de l'opportunité d'avoir le micro. Je peux passer des bonjours. Je pense que maintenant, on ne dit plus ça dans les émissions radio et à la
mais
télé.
Si,
mais j'ai envie de passer un bonjour.
Alors,
deux pensées. Une pour ma famille qui est un petit peu éparpillée un peu partout dans le monde. Nous sommes 9 frères et sœurs et on est sur presque tous les continents. Et une pensée très particulière à mon fils, que j'adore, que j'aime plus que tout au monde. Et en dernier, à ma compagne qui est en train de se battre courageusement contre le cancer. Et je la félicite pour le courage et la rigueur qu'elle met pour combattre ce crabe.
Je suis sûre que votre fils et votre compagne vous entendent.
J'espère bien.
Merci beaucoup. J'ai été vraiment ravie de vous recevoir. Et j'espère que les jeunes vont vous entendre et vous écouter, comme vous le dites, avec une grande écoute.
Merci beaucoup pour l'invitation. J'étais ravie d'être là.
Je vous remercie. Voilà, je vous retrouve bientôt pour une prochaine émission. Au revoir tout le monde.